Chapitre 3. En entrant au journal le lendemain, Duroy alla trouver Boisrenard. « Mon cher ami, dit-il, j'ai un service à te demander. On trouve drôle depuis quelque temps de m'appeler forestier. Moi, je commence à trouver ça bête. Veux-tu avoir la complaisance de prévenir doucement les camarades que je giflerai le premier qui se permettra de nouveau cette plaisanterie? Ce sera à eux de réfléchir si cette blague-là vaut un coup d'épée. Je m'adresse à toi parce que tu es un homme calme, qui peut empêcher des extrémités fâcheuses, et aussi parce que tu m'as servi de témoin dans notre affaire. » Boisrenard se chargea de la commission. Duroy sortit pour faire des courses, puis revint une heure plus tard. Personne ne l'appela forestier. Comme il rentrait chez lui, il entendit des voix de femmes dans le salon. Il demanda « Qui est là ?» Le domestique répondit « Madame Walter et Madame de Marelle. » Un petit battement lui secoua le cœur. Puis il se dit « Tiens, voyons. » Et il ouvrit la porte. Clotilde était au coin de la cheminée, dans un rayon de jour venu de la fenêtre. Il sembla à Georges qu'elle pâlissait un peu en l'apercevant. Ayant d'abord salué Madame Walter et ses deux filles, assises comme deux sentinelles aux côtés de leur mère, il se tourna vers son ancienne maîtresse. Elle lui tendait la main, il la prit et la serra avec intention comme pour dire « Je vous aime toujours ». Elle répondit à cette pression. Il demanda « Vous vous êtes bien porté pendant le siècle écoulé depuis notre dernière rencontre ?» Elle répondit avec aisance « Mais oui, et vous, belle amie ?» Puis, se tournant vers Madeleine, elle ajouta « Tu permets que je l'appelle toujours belle amie ?»« Certainement, ma chère, je permets tout ce que tu voudras. » Une nuance d'ironie semblait cachée dans cette parole. Madame Walter parlait d'une fête qu'allait donner Jacques Rival dans son logis de garçon. Un grand assaut d'armes où assisteraient des femmes du monde. Elle disait « Ce sera très intéressant, mais je suis désolée, nous n'avons personne pour nous y conduire. Mon mari devant s'absenter à ce moment-là. » Duroy s'offrit aussitôt. Elle accepta. « Nous vous en serons très reconnaissantes, mes filles et moi. » Il regardait la plus jeune des demoiselles Walter et pensait « Elle n'est pas mal du tout, cette petite Suzanne, mais pas du tout. » Elle avait l'air d'une frêle poupée blonde, trop petite mais fine, avec la taille mince, des hanches et de la poitrine, une figure de miniature, des yeux d'émail, d'un bleu gris, dessiné au pinceau, qui semblait nuancé par un peintre minutieux et fantaisiste, de la chair trop blanche, trop lisse, polie, unie, sans grain, sans teinte, et des cheveux ébouriffés, frisés, une broussaille savante, légère, un nuage charmant, tout pareil en effet à la chevelure des jolies poupées de luxe qu'on voit passer dans les bras de gamines beaucoup moins hautes que leurs joujoux. La sœur aînée, Rose, était laide, plate, insignifiante, une de ces filles qu'on ne voit pas, à qui on ne parle pas et dont on ne dit rien. La mère se leva et, se tournant vers Georges, « Ainsi, je compte sur vous jeudi prochain, à 2 heures ?» Il répondit « Comptez sur moi, madame. » Dès qu'elle fut partie, Madame de Marelle se leva à son tour. « Au revoir, belle amie. » Ce fut elle alors qui lui serra la main très fort, très longtemps. Et il se sentit remué par cet aveu silencieux, repris d'un brusque béguin pour cette petite bourgeoise bohème et bonne enfant, qu'il aimait vraiment, peut-être. « J'irai la voir demain, » pensa-t-il. Dès qu'il fut seul, en face de sa femme, Madeleine se mit à rire, d'un rire franc et gai, et le regardant bien en face, « Tu sais que tu as inspiré une passion à Madame Walter ?» Il répondit incrédule, « Allons donc, mais oui, je te l'affirme. Elle m'a parlé de toi avec un enthousiasme fou. C'est si singulier de sa part. Elle voudrait trouver 2 maris comme toi pour ses filles. » Heureusement qu'avec elle, ces choses-là sont sans importance. Il ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Comment sans importance ? Elle répondit avec une conviction de femme sûre de son jugement. « Oh, Madame Walter est une de celles dont on n'a jamais rien murmuré. Mais tu sais, là, jamais, jamais. Elle est inattaquable sous tous les rapports. Son mari, tu le connais comme moi. Mais elle, c'est autre chose. » Elle a d'ailleurs assez souffert d'avoir épousé un juif, mais elle lui est restée fidèle. C'est une honnête femme. » Duroy fut surpris. « Je la croyais juive aussi. » « Elle ? Pas du tout. Elle est dame patronesse de toutes les bonnes œuvres de la Madeleine. Elle est même mariée religieusement. Je ne sais plus s'il y a eu un simulacre de baptême du patron, ou bien si l'église a fermé les yeux. » Georges murmura. « Oh, alors, elle me gobe positivement et complètement. Ah, si tu n'étais pas engagé, je te conseillerais de demander la main de Suzanne, n'est-ce pas ? Plutôt que celle de Rose. » Il répondit en frisant sa moustache. « Eh, la mère n'est pas encore piquée des vers. » Mais Madeleine s'impatienta. « Tu sais, mon petit, la mère, je te la souhaite. Mais je n'ai pas peur. Ce n'est point à son âge qu'on commet sa première faute. Il faut s'y prendre plus tôt. » Georges songea. « Si c'était vrai, pourtant, que j'eusse pu épouser Suzanne. » Puis il haussa les épaules. « Bah, c'est fou. Est-ce que le père m'aurait jamais accepté ?» Il se promit toutefois d'observer désormais avec plus de soin les manières de Madame Walter à son égard, sans se demander d'ailleurs s'il en pourrait jamais tirer quelque avantage. Tout le soir, il fut hanté par des souvenirs de son amour avec Clotilde. Des souvenirs tendres et sensuels en même temps. Il se rappelait ses drôleries, ses gentillesses, leurs escapades. Il se répétait à lui-même « Elle est vraiment bien gentille. Oui, j'irai la voir demain. » Dès qu'il eut déjeuné le lendemain, il se rendit en effet rue de Verneuil. La même bonne lui ouvrit la porte et, familièrement à la façon des domestiques de petits bourgeois, elle demanda « Ça va bien, monsieur ?» Il répondit « Mais oui, mon enfant. » Et il entra dans le salon, où une main maladroite faisait des gammes sur le piano. C'était Laurine. Il crut qu'elle allait lui sauter au cou. Elle se leva gravement, salua avec cérémonie, ainsi qu'aurait fait une grande personne, et se retira d'une façon digne. Elle avait une telle allure de femme outragée qu'il demeura surpris. Sa mère entra, il lui prit et lui baisa les mains. « Combien j'ai pensé à vous » dit-il. « Et moi ?» dit-elle. Ils s'assirent, ils se souriaient, les yeux dans les yeux, avec une envie de s'embrasser sur les lèvres. « Ma chère petite Clo, je vous aime. Et moi aussi. Alors, tu ne m'en as pas trop voulu. Oui et non. Ça m'a fait de la peine. Et puis, j'ai compris ta raison et je me suis dit, bah, il me reviendra un jour ou l'autre. Je n'osais pas revenir. Je me demandais comment je serais reçue. Je n'osais pas. Mais j'en avais rudement envie. À propos, dis-moi donc ce qu'a Laurine. Elle m'a à peine dit bonjour et elle est partie d'un air furieux. Je ne sais pas. Mais on ne peut plus lui parler de toi depuis ton mariage. Je crois vraiment qu'elle est jalouse. Allons donc. Mais oui, mon cher. Elle ne t'appelle plus belle amie, elle te nomme Monsieur Forestier. » Duroy rougit, puis s'approchant de la jeune femme, « Donne ta bouche. » Elle la donna. « Où pourrons-nous nous revoir ? » dit-il. « Mais rue de Constantinople ? » ?»« Ah ! L'appartement n'est donc pas loué ? » ?»« Non, je l'ai gardé. » »« Tu l'as gardé ? » ?»« Oui, j'ai pensé que tu y reviendrais. » Une bouffée de joie orgueilleuse lui gonfla la poitrine. Elle l'aimait donc, celle-là, d'un amour vrai, constant, profond. Il murmura « Je t'adore !» Puis il demanda « Ton mari va bien ?»« Oui, très bien. Il vient de passer un mois ici. Il est parti d'avant-hier. » Duroy ne put s'empêcher de rire. « Comme ça tombe !» Elle répondit naïvement « Oh oui, ça tombe bien. Mais il n'est pas gênant quand il est ici tout de même, tu le sais. » « Ça, c'est vrai. C'est d'ailleurs un charmant homme. » « Et toi ? » dit-elle. « Comment prends-tu ta nouvelle vie ?»« Ni bien ni mal. Ma femme est une camarade, une associée. »« Rien de plus ?»« Rien de plus. Quant au cœur, je comprends bien. Elle est gentille pourtant. Oui, mais elle ne me trouble pas. Il se rapprocha de Clotilde et murmura « Quand nous reverrons-nous? Mais demain, si tu veux. Oui, demain. 2 heures. 2 heures. » Il se leva pour partir, puis il balbutia, un peu gêné « Tu sais, j'entends reprendre seul l'appartement de la rue de Constantinople, je le veux. Il ne manquerait plus qu'il fût payé par toi. » Ce fut elle qui baisa ses mains avec un mouvement d'adoration, en murmurant « Tu feras comme tu voudras. Il me suffit de l'avoir gardé pour nous y revoir. » Et du roi s'en alla, l'âme pleine de satisfaction. Comme il passait devant la vitrine d'un photographe, le portrait d'une grande femme aux larges yeux lui rappela Madame Walter. « C'est égal, » se dit-il. Elle ne doit pas être mal encore. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais remarquée? J'ai envie de voir quelle tête elle me fera, je dis. Il se frottait les mains, tout en marchant avec une joie intime, la joie du succès sous toutes ses formes, la joie égoïste de l'homme adroit qui réussit, la joie subtile, faite de vanité flattée et de sensualité contente que donne la tendresse des femmes. Le jeudi venu, il dit à Madeleine « Tu ne viens pas à cet assaut, chez Rival ?»« Oh non, cela ne m'amuse guère, moi, j'irai à la Chambre des députés. » Et il alla chercher Madame Walter, en landau découvert, car il faisait un admirable temps. Il eut une surprise en la voyant, tant il la trouva belle et jeune. Elle était en toilette claire, dont le corsage un peu fendu laissait deviner sous une dentelle blonde le soulèvement gras des seins. Jamais elle ne lui avait paru si fraîche. Il la jugea vraiment désirable. Elle avait son air calme et, comme il faut, une certaine allure de maman tranquille qui la faisait passer presque inaperçue aux yeux galants des hommes. Elle ne parlait guère d'ailleurs que pour dire des choses connues, convenues et modérées. Ses idées étant sages, méthodiques, bien ordonnées, à l'abri de tous les excès. Sa fille Suzanne, tout en rose, semblait un watteau frais verni. Et sa sœur aînée paraissait être l'institutrice chargée de tenir compagnie à ce joli bibelot de fillette. Devant la porte de Rival, une file de voitures était rangée. Duroy offrit son bras à Madame Walter et ils entrèrent. L'assaut était donné au profit des orphelins du 6e arrondissement de Paris, sous le patronage de toutes les femmes des sénateurs et députés qui avaient des relations avec la vie française. Madame Walter avait promis de venir avec ses filles en refusant le titre de dame patronesse, parce qu'elle n'aidait de son nom que les œuvres entreprises par le clergé. Non pas qu'elle fût très dévote, mais son mariage avec un Israélite la forçait, croyait-elle, à une certaine tenue religieuse. Et la fête, organisée par le journaliste, prenait une sorte de signification républicaine qui pouvait sembler anticléricale. On avait lu dans les journaux de toutes les nuances depuis 3 semaines. Notre éminent confrère Jacques Rival vient d'avoir l'idée aussi ingénieuse que généreuse d'organiser, au profit des orphelins du 6e arrondissement de Paris, un grand assaut dans sa jolie salle d'armes attenante à son appartement de garçon. Les invitations sont faites par Mesdames Lalouague, Remontel, Rissolin, femme des sénateurs de ce nom, et par Mesdames Laroche-Mathieu, Percerolles, Firmin, femme des députés bien connus. Une simple quête aura lieu pendant l'entracte de l'assaut et le montant sera versé immédiatement entre les mains du maire du 6e arrondissement ou de son représentant. C'était une réclame monstre que le journaliste, adroit, avait imaginée à son profit.